Journal de 7h30, Nicolas Olivier, dans l'actualité. Cette question, y a-t-il eu défaillance dans le suivi psychiatrique?
La femme, soupçonnée d'être à l'origine de l'incendie de l'immeuble parisien qui a fait 10 morts avant-hier, avait de sacrés antécédents psychiatriques. Paris compte ses sans-abri, deuxième édition de la Nuit de la Solidarité. Ce soir, 2000 bénévoles vont sillonner les rues de la capitale, vous entendrez l'une d'entre elles. France Bleu Paris se penche sur le surendettement ce matin, un phénomène qui semble reculer depuis 4-5 ans d'après la Banque de France. Notre dossier, c'est à 7h45.
Et vous aurez la parole comme chaque matin à partir de 8h20. On attend vos témoignages sur cette thématique. C'est à vous de le dire, 01 42 30 10 10.
Une agence immobilière de l'Essonne ne voulait pas de locataires arabes, noirs ou asiatiques. Le gérant et son fils ont été condamnés et c'est plutôt exceptionnel, vous l'entendrez. Service minimum pour le Paris Saint-Germain en Coupe de France, poussé en prolongation par la modeste équipe de Villefranche-Beaujolais. Les Parisiens ont quand même gagné 3-0. Ce sera PSG-Dijon en quart de finale dans 3 semaines.
France Bleu Paris Matin.
48 heures après l'incendie rue Erlinger, l'émotion laisse place à des questions.
Notamment sur le profil psychiatrique de la femme de 40 ans, soupçonnée d'avoir mis le feu à son immeuble, geste qui a fait 10 morts et 96 blessés. Depuis 2009, cette dame a effectué 13 séjours à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris. Elle venait d'ailleurs d'en sortir le 30 janvier. La dangerosité de cette femme a été sous-estimée, c'est ce que pense Pierre Lamotte, expert psychiatre auprès des tribunaux.
Le plus vraisemblable, c'est certainement qu'on a raté quelque chose, c'est que malheureusement, il y a eu erreur sur la question de sa dangerosité, c'est-à-dire qu'elle a été jugée comme ne représentant pas un danger immédiat, mais étant simplement un trublion alcoolique, un peu caractériel, pour ce qu'on en sait actuellement. Enfin, elle a été plus, mettons, rangée dans le camp des emmerdeuses que dans le camp des malades dangereuses. Tout le monde peut se tromper là-dessus. Malheureusement, il faut une grande humilité. Qui peut prétendre qu'il possède les bons outils pour déterminer qui sera dangereux dans le futur? Moi, je pense qu'il y a des éléments, d'abord parce que l'incendie, ça récidive presque toujours, mais quand on a là, chez elle, la notion de façon répétitive de menacer ou d'invoquer ou d'avoir même commencé à mettre le feu à titre de menace, ça c'est un indice de dangerosité.
Seules 6 des 10 victimes de l'incendie ont été identifiées. Les proches de certains disparus attendent toujours des informations officielles.
Et puis une autre question ce matin, combien sont-ils à dormir dehors dans la capitale?
Un peu plus de 3000 sans-abri avaient été comptabilisés il y a un an. La mairie de Paris organise un nouveau recensement nocturne. Ce soir, 2000 Parisiens vont quadriller la ville, chaque rue, chaque square, sans oublier parking, station de métro et hall d'immeuble. Alice ira comme l'an dernier à la rencontre de ces personnes trop souvent invisibles.
Le fait de pouvoir connaître un peu plus en détail les situations des personnes, de s'adresser à eux directement, on se dit finalement qu'on est capable d'établir un contact dans la vie de tous les jours, quoi, que c'est faisable. Comment je vais dire bonjour, comment je me positionne, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Et ça m'a, je dirais, rassurée dans qu'est-ce que je suis capable de faire, comment je peux m'adresser en fait tous les jours à quelqu'un pour lui montrer que je le vois, des choses en fait très simples. Ce qui est, j'allais dire, plus compliqué, c'est que on rentre après chez nous, quoi. Donc vers minuit, on se retrouve chez nous dans notre lit et on se dit, bah voilà, j'ai parlé à toutes ces personnes ce soir et puis ces personnes, elles vont dormir dehors et puis moi, je suis dans mon lit bien au chaud. Ça nous met vraiment la réalité en face.
Alice, bénévole de cette nuit de la solidarité au micro France Bleu Paris de Faustine Calmel. L'opération débute à 22h ce soir. Premier résultat dans une semaine. Un ancien conducteur de bus condamné hier soir par les assises du Val d'Oise. 5 ans de prison, dont 18 mois ferme pour avoir provoqué la mort d'un SDF qui ne voulait pas sortir de son octilien. Mais l'accusé a été acquitté des faits de non-assistance à personne en danger. L'avocat général avait requis 8 ans de prison. Le chauffeur de 55 ans qui avait fait de la détention provisoire est ressorti libre.
Autre procès en correctionnel, celui-là, c'est à Évry dans l'Essonne.
Deux agents immobiliers, un père et son fils, ont été condamnés hier pour discrimination raciale. 4 mois de prison avec sursis pour le patron, 2 mois avec sursis pour l'employé. Leur agence de Palaiseau réservait ses apparts à des clients blancs. Une victoire pour les associations qui étaient partie civile, car en matière de racisme, les condamnations sont rares, faute de preuves, Laetitia Evelyne.
C'est d'ailleurs ce qu'a plaidé la procureure hier soir à l'audience. Elle avait requis 8 mois de prison avec sursis en rappelant un simple constat. Les comportements discriminatoires font partie du quotidien de millions de personnes en France et les procès sont très rares parce que les discriminations sont très difficiles à prouver. Et de marteler, oui, Ce que les accusés ont fait, cela fait partie du racisme ordinaire. Oui, ils doivent répondre de leurs actes, parce que la seule raison pour laquelle ces gens n'ont pas obtenu leur logement, c'est une différence d'épiderme. Il est important de ne pas laisser le sentiment que ce type de fait peut être reproduit sans conséquence. Les associations craignaient un non-lieu. Cette condamnation, cette reconnaissance de culpabilité est donc une victoire, autant pour SOS Racisme que pour la LICRA. Le président de l'association La Maison des Potes ajoute même « C'est le message de ce tribunal. Oui, ça vaut la peine de porter plainte. Les victimes de discrimination ne doivent pas laisser passer, même si ça prend 12 ans. »
Les deux agents immobiliers devront verser des dommages et intérêts à une de leurs victimes, mais aussi aux associations Maison des Potes, LICRA et SOS Racisme. Ils ont mis leur menace à exécution. Les salariés de la papeterie Arjot-Wiggins de Jouy-sur-Morin en Seine-et-Marne ont fait flamber une partie de leur stock. Hier, ils ont donc brûlé du papier servant à fabriquer des billets de banque, des passeports, des cartes grises ou des chèques. Le site est en liquidation judiciaire. Les salariés veulent une indemnité de licenciement de 50 000 euros. La SNCF délègue l'ouverture de deux gares en Seine-et-Marne. Ce sont des employés de la chaîne Relais qui doivent désormais ouvrir le matin et fermer le soir les gares de Lagny-Torigny et de Roissy-en-Brie. Une expérimentation qui ne plaît pas au syndicat Sudrail qui dénonce une politique d'externalisation. Il est 7h37 et les supporters du PSG commencent à s'inquiéter à 5 jours de Manchester. Après la défaite dimanche à Lyon, les Parisiens ont été incapables de battre dans le temps réglementaire une équipe de 3e division hier soir. Il a fallu attendre la prolongation pour voir marquer Draxler, Diaby et Cavani. 3-0 donc contre le FC Villefranche-Beaujolais. Le club de la capitale sera bien en quart de finale de la Coupe de France et c'est l'essentiel pour Marquinhos, capitaine hier soir au micro de Bruno Salomon.
Ouais, c'est ça, compliqué. Mais l'important c'était vraiment la qualification. On ne voulait pas jouer cette prolongation, on voulait faire mieux les choses. Mais voilà, c'est le contexte de match et il y a eu beaucoup de changements. Il n'y avait pas l'habitude et les automatismes de jouer ensemble. Et on a essayé de faire le mieux possible. Et on sait tous qu'on a des échanges importants qui vont venir. Il faut aussi penser à bien préparer avant. Et une fois qu'on est sur le terrain, on n'essaye pas de penser à blessures, on n'essaye pas de penser à d'autres choses, à le match suivant. On essaye de profiter un maximum de ce match qu'on est en train de jouer. Et parce qu'on sait que voilà, surtout sur un match comme ça, il fallait qu'on reste concentré parce qu'on avait beaucoup à perdre. Il fallait respecter cette équipe et faire le boulot. Et je pense qu'on est rentré sur le terrain et c'est ça qu'on a essayé de faire aujourd'hui.
Paris recevra Dijon en quart de finale le 26 ou le 27 février. Retrouvailles hein, avec Antoine Comboiré, actuel entraîneur des Dijonnais. Il est pile 7h39. Bienvenue sur France Bleu Paris.